Deutsche Welle. Vue d'Allemagne. À Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, un tribunal vient d'autoriser la poursuite de la construction d'un centre de réfugiés dans l'un des quartiers les plus riches de la ville. Des habitants de Blankenese avaient déposé une plainte pour protester contre ce projet au motif qu'il violait des dispositions environnementales. Une affaire relayée par la presse nationale et qui n'est pas des plus flatteuses pour une banlieue qui compte parmi les plus aisées de toute l'Allemagne. Et puis nous irons aussi en Ukraine, à Vilcha précisément. Dans ce village vivent des réfugiés d'une autre époque, des personnes qui ont été relogées après la catastrophe de Tchernobyl, dont on célèbre cette semaine le 30e anniversaire. C'est Constance Dönkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous.
Nächste Haltestelle, Blankenese.
Next station, Blankenese.
Centre-ville de Hambourg, quelques arrêts de train vers l'ouest, et nous voilà dans le quartier huppé de Blankenese. Blankenese, un quartier résidentiel et pittoresque, connu pour ses jolis points de vue sur l'Elbe, le fleuve qui traverse Hambourg, des rues bordées d'arbres, des villas cossues et des habitants aisés. En règle générale, la vie ici est plutôt calme, à l'exception de ces dernières semaines.
Wir möchten uns für den Bau des Björnsonwegs einsetzen. Da gibt es keine Zweifel. Aber wir möchten eben...
Récemment, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place centrale du marché de Blankenese pour soutenir la mairie. Celle-ci a souhaité construire dans le quartier un centre pour accueillir provisoirement des demandeurs d'asile. Helga Rodenbeck est l'une des organisatrices de la manifestation.
Nous voulons montrer que Blankenese soutient les réfugiés. Nous ne voulons pas nous isoler. Nous voulons un quartier bigarré dans lequel résidents et réfugiés vivent ensemble.
Le problème, c'est que tout le monde ne partage pas l'avis de Helga Rodenbeck. Le projet de la ville consiste à construire des pavillons temporaires pour héberger 192 réfugiés. Mis à part quelques dizaines d'arbres, le terrain visé est inoccupé. Il a d'ailleurs déjà servi à accueillir des réfugiés jusqu'en 2008. Certains habitants de Blankenese s'opposent au nouveau projet de la municipalité en invoquant des préoccupations environnementales. Selon eux, les arbres du site doivent être protégés. À tel point que le jour où les employés de la ville viennent pour commencer les travaux, ils se voient tout simplement refuser l'accès au site. Les habitants mécontents avaient positionné leur véhicule pour bloquer l'entrée de la rue. Par la suite, ils décident de porter plainte et la justice ordonne la suspension des travaux. D'autres habitants de Blankenese mettent cependant en doute la légitimité de ces inquiétudes écologiques qu'ils soupçonnent être en fait un alibi pour tenir les réfugiés éloignés du quartier. Certains résidents ne s'en cachent pas d'ailleurs et le disent aux journalistes de la chaîne de télévision locale NDR.
Nous avons déjà eu des demandeurs d'asile ici, pendant très longtemps même, au moins 25 ans. Et à l'époque, il y a eu de très gros problèmes. Pour être honnête, c'est pour ça que j'ai un peu peur, oui.
Und deshalb habe ich auch ein bisschen Angst, bin ich ganz ehrlich.
Depuis 1992, Klaus Georg Pöls est le pasteur de l'église protestante du quartier de Blankenese. Il soutient lui aussi le projet de la municipalité et manifeste en faveur de l'accueil des réfugiés. Mais il est également attentif aux préoccupations de certains de ses paroissiens. Il les encourage même à engager le dialogue.
Was zu bedenken ist und was mich auch nachdenklich gemacht hat, ist tatsächlich...
Il y a effectivement un sentiment de peur. Nous devons le reconnaître et cela m'a aussi fait réfléchir. Il nous faut dompter cette peur et la dompter ensemble. Si les gens, au lieu de se replier sur eux-mêmes, expriment cette peur, nous sommes en mesure de leur dire « Ok, alors venez nous voir, venez rencontrer nos réfugiés et vous verrez que cela marche entre eux et vous. »
Actuellement, plus de 30 000 réfugiés vivent dans des centres gérés par la municipalité et répartis dans toute la ville de Hambourg. Pour le moment, aucun d'entre eux n'est hébergé à Blankenese. Le centre prévu pour les demandeurs d'asile dans ce quartier pourrait accueillir 192 personnes, 192 réfugiés pour environ 13 000 résidents. Ce n'est quand même pas grand-chose, affirme Helga Rodenbeck, qui se dit surprise par l'opposition rencontrée.
Cela m'intrigue. Nous qui habitons ici, nous allons bien. Beaucoup mieux que d'autres, en tout cas. Nous avons une obligation envers ces réfugiés. Nous devons les accueillir, nous occuper d'eux, les intégrer.
Certains manifestants s'inquiètent également des répercussions de cette affaire sur la réputation du quartier et même de la ville entière. Christian Kohler travaille pour Hamburg Integrates, une association caritative citoyenne qui vient en aide aux réfugiés.
Il n'y a pas que Blankenese, c'est toute la ville qui risque de souffrir de cette histoire. Hambourg a toujours été très solidaire et ce serait vraiment dommage que la ville se divise en deux groupes.
À Blankenese, une telle division serait malvenue, même si certains souhaitent faire du quartier le symbole du sentiment grandissant de peur et d'inquiétude qui s'empare de l'Allemagne face à la crise des réfugiés. Il n'en reste pas moins que ceux qui s'opposent à la construction d'un centre pour demandeurs d'asile sont bien moins nombreux que ceux qui y sont favorables. Merci à Julian Bohne qui a réalisé les sons de ce reportage. À tout de suite. Vous écoutez Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle. 30 ans déjà sont passés depuis l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Chaque année, les habitants de Vilcha, dans le nord de l'Ukraine, commémorent avec tristesse la catastrophe. Dans ce petit village vivent des réfugiés qui ont dû fuir des régions contaminées par la radioactivité. Le reportage de Laurent Gélin et Sébastien Gobert.
La terre noire, de la plaine céréalière, des routes défoncées devant lesquelles sont alignées quelques maisons de briques. À première vue, Vilcha pourrait ressembler à n'importe quel autre village ukrainien. Mais ceux qui habitent ici sont des réfugiés de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Certains venaient de Pripyat, autrefois surnommée la ville de l'atome et aujourd'hui désertée. D'autres des campagnes proches de la centrale. Tatiana Semenchuk est membre de l'association La Mémoire de Tchernobyl.
Vilcha est un village spécial car ici vivent des invalides, des gens qui ont été évacués, des liquidateurs, des gens très différents. Une femme sur deux ou trois a été opérée des seins. Ici, personne n'est en bonne santé.
Selon certaines estimations, plus de 200 000 personnes auraient été déplacées dans les années qui ont suivi l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale Lénine. À la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine, nouvellement indépendante, s'engage à construire un village pour loger certains de ses réfugiés. Ce dernier prend le nom de Vilcha, celui d'un hameau aujourd'hui abandonné à quelques dizaines de kilomètres de Tchernobyl. Alexandre Breitenfeld, un ancien liquidateur.
Les premiers habitants sont arrivés en 1992. Le village n'a que 25 ans, mais le cimetière est déjà très grand. La bourgade n'a que 2000 personnes, mais elle compte plusieurs centaines de tombes en un temps très court. Vilcha 1, c'est là où nous avons vécu. Vilcha 2, c'est là où nous sommes. Vilcha 3, c'est le cimetière, là où l'on va tous finir par nous ranger.
Dans le village, les jeunes connaissent l'histoire de la catastrophe, mais ceux qui le peuvent souhaitent surtout partir à Kiev pour trouver du travail. Leurs parents, qui avaient 20 ans dans les années 1980, regardent passer les saisons en tentant de survivre grâce à de maigres pensions. Dans le hall de la mairie est placardée la photo d'un jeune homme en uniforme.
C'est Nikolai, un habitant du village de Vilcha dans la région de Kiev. Il a été l'un des premiers pompiers à tenter de refroidir le réacteur. Il est mort le 16 mai 1986 dans un hôpital de Moscou. Sa photo est ici parce que c'était l'un des nôtres. Je suis de 64, il était de 62. Nous avons été à l'école ensemble. C'est pourquoi on se souvient de lui.
Après son installation dans le nouveau village, Alexandre Breitenfeld a longtemps travaillé dans un kolkhoz. Depuis quelques années, il a le statut d'invalide, comme la majorité des gens ici.
D'abord, il y a les effets directs de la radiation, ensuite les traumatismes liés au fait que nous avons dû fuir nos maisons pour aller dans une autre région. Ici, c'est toujours l'Ukraine, Mais nous, nous sommes nés dans la région de Kiev, on y a grandi et vécu la majeure partie de nos vies. Et puis soudainement, tout cela s'est arrêté. Alors le 26 avril, pour nous, commémore une tragédie.
Depuis quelques mois, environ 500 nouveaux pensionnaires sont venus rejoindre les déplacés de Tchernobyl, des réfugiés qui fuient la guerre dans le Donbass. Anna et sa fille sont originaires de la ville de Gorlovka, une cité minière contrôlée par les séparatistes de la République populaire de Donetsk, la DNR. Elles ont trouvé refuge dans une chambre prêtée par l'église gréco-catholique de Vilcha.
Maman et ребенок, 4 года, она уже различала, когда танки.
Ma fille de 4 ans, elle sait déjà faire la différence entre les obus de chars et les missiles à grade. Je remercie les gens d'ici, c'est très bien, très confortable. Vous savez, il y a la guerre, mais ici c'est calme et tranquille. De bons psychologues sont avec nous, ce qui nous aide.
Nous savons ce que l'exil veut dire, répètent les habitants de Vilcha. C'est pour cela que nous aidons du mieux que nous pouvons ceux qui fuient les combats à l'Est. Si une solution politique est trouvée pour mettre fin au conflit, les réfugiés du Donbass pourront peut-être un jour rentrer chez eux, contrairement aux habitants de Vilcha, condamnés à être inhumés dans une terre qu'ils considèrent comme étrangère.
Et si vous voulez réécouter ce reportage, il est à retrouver comme le reste de ce magazine sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss !